France Inter.
Et cette année, qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit un certain nombre d'enregistrements. Je crois que j'ai le chiffre, 16 sous.
Excusez-moi, Monsieur Bockmann, mais il y a un moment, moi, j'en peux plus.
Je vous donne des exemples.
Non, il y a un moment, j'en peux plus. Voilà. Vous m'expliquez dans le détail vos centres de recherche, etc. C'est pas l'objectif de la commission d'enquête. Dites-moi, par contre, combien vous avez investi? Combien il y a eu un crédit d'impôt recherche dessus? Combien il y a eu de subventions? Mais n'essayez pas, à ce point, de noyer le poisson.
C'était fin mars, face au patron de la recherche et développement de Sanofi. Le sénateur LR, Olivier Rittmann, explose. On n'est absolument pas là pour se faire endormir, ajoute le président de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques versées aux entreprises. Bah oui, la question c'est 1 milliard de crédits impôts recherche accordés en 10 ans, à quoi ça a servi? Ces commissions d'enquête, ces derniers mois, elles se sont multipliées. En ce moment, vous pouvez aussi suivre celles sur les plans de licenciement, celles sur les freins à la réindustrialisation. Et sauf refus d'obstacle, façon Pierre-Édouard Sterrin, le milliardaire conservateur, les commissions, elles convoquent, elles obligent et elles ont le pouvoir de faire parler les plus taiseux. Rien que cette semaine, les patrons de Danone, CMA-CGM, la SNCF, Accor se sont succédés au Sénat. Alors tout ça pourquoi? Près de 100 000 vues sur YouTube pour l'échange avec Sanofi, pas mal. Comme si questionnant les patrons, les politiques combattaient le sentiment actuel d'impuissance. Alors vous allez me dire, oui mais Sanofi a annoncé 20 milliards d'investissements cette semaine, pas en France, hein, aux États-Unis. D'accord, mais pour les chefs d'entreprise, il y a beaucoup d'éléments de langage, mais il y a peut-être aussi pour eux quelque chose à gagner en descendant dans l'arène démocratique. La bataille d'opinion, un espace pour faire prendre l'air à leurs convictions au-delà des lobbies. Écoutez ou réécoutez le patron de Michelin, 4 auditions quand même depuis septembre dernier, qui se faisait lanceur d'alerte sur l'industrie tricolore. Alors utile ou pas, faites-vous votre idée. Tenez mercredi prochain, la commission sénatoriale sur les aides publiques du LR Rittmann et du communiste Fabien Gay questionne à 18h Bernard Arnault.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans votre magazine d'économie. Une heure pour discuter ensemble de l'économie comme on la vit. Je l'ai préparé ce magazine avec mon coproducteur Valentin Pérez. Emma Bouvier a été à la pêche au son. Mathias Volant et Étienne Bertin réalisent le mag. Joseph Ascal est dans l'équipe. Corentin Rouchy signe les mix. Et Mathias Alléon est à la technique. Dans notre conversation ce matin, l'avenir de l'automobile. Avez-vous déjà entendu parler des SDV? Ça veut dire Software Defined Vehicle. Une nouvelle façon de concevoir la voiture autour du logiciel. Ça devient de plus en plus un smartphone avec quatre roues et ça pose de nouvelles questions. La sécurité, la concurrence entre les constructeurs. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo et mon invité, c'est le directeur général de Valeo. C'est l'un des plus grands équipementiers français. SDV, droit de douane, emploi. Interview de Christophe Périlla vers 9h40. Juste avant 10h, ce sera les coulisses du monde du travail explorées par Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Madame Vioboulot, vous répondez ce matin à notre auditrice Amandine.
Oui, une question d'Amandine sur les CV et ChatGPT. Comment sortir du lot quand tout le monde utilise l'intelligence artificielle, y compris les recruteurs. Je vous en parle tout à l'heure.
Et on vous écoutera avec beaucoup d'attention. Ce sera juste avant 10h, en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre avec le débat d'actu. Ce matin, nos débatteurs sont ma confrère de Libération, Anne-Sophie Le Chevalier. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et le président du Conseil d'analyse économique et professeur à la London School of Economics, Xavier Jaravel. Hello Xavier.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous.
Alors, comment un pays attire-t-il les investisseurs étrangers, les usines? Il y a la manière forte, c'est celle de Donald Trump, avec ses droits de douane, the tariffs. Et puis, il y a l'opération séduction, la politique de l'offre, avec en apothéose Choose France, le tapis rouge à Versailles pour les très grands patrons. Ça se passera après-demain, lundi. Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est notre débat.
La politique qui consiste à prendre les ordonnances travail, à baisser les impôts, à attirer les capitaux, à permettre de simplifier la vie des entreprises, eh ben elle produit un effet.
Emmanuel Macron.
Nous sommes depuis 6 ans le pays le plus attractif d'Europe.
8e sommet Choose France. Emmanuel Macron convie les patrons du monde entier. Édition historique promet déjà l'Elysée. Si la France reste la première destination des investissements étrangers en Europe, la courbe s'est clairement infléchie en 2024 selon le baromètre du cabinet EY.
Il est plus intéressant encore aujourd'hui d'investir en France, même si on perd des investissements directs, ce qu'on appelle les IDE étrangers.
Bernard Cohen-Haddad, directeur de la CPME Île-de-France.
On perd de la création d'emplois des investisseurs étrangers, mais on est moins mauvais que les autres. On caracole en tête, mais on a la tête au-dessus de l'eau, mais le corps dans l'eau. On est sur une situation qui est encore un peu figée. Avant, si ça ne bouge pas, une dégringolade.
Dans un certain nombre de secteurs d'activité, aller s'implanter et produire aux États-Unis, c'est presque un réflexe de survie pour se protéger d'importations qui prendraient soudainement 50% de droits de douane, le lendemain 10%.
Marc Lhermitte, associé au sein du cabinet EY.
Donc l'imprévisibilité, le côté un peu chaotique, turbulent et finalement, disons-le, très inquiétant de ces annonces et de ces contre-annonces, c'est vrai que les entreprises se disent « je dois absolument sécuriser ce que je fais dans mon premier marché mondial, les États-Unis ».
Les États-Unis et la Chine vont suspendre pour 90 jours une partie de leurs droits de douane punitifs. Première négociation directe depuis le début du bras de fer autour des droits de douane.
Donald Trump, président des États-Unis.
Nous ne cherchons pas à nuire à la Chine, qui a déjà assez souffert. Elle fermait des usines et connaissait beaucoup d'instabilité. Nos relations sont très bonnes. Je parlerai peut-être au président Xi en fin de semaine. Nous avons conclu un excellent accord. Ce sera fantastique pour la Chine, ce sera fantastique pour nous. Et je pense que ce sera important pour l'unification et la paix.
Les États-Unis sont délibérément dans une démarche bilatérale. On l'a vu avec le Royaume-Uni, on l'attend avec le Mexique et le Canada.
Xavier Timbaud, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques.
On ne peut pas laisser faire un bilatéralisme. Il faut tout faire pour l'empêcher, parce que ça serait un coin dans l'Europe qui serait considérable, et l'Europe n'a pas besoin de ce genre de fragilité aujourd'hui.
Voilà. tout est sur la table. Alors, on va commencer avec vous, Xavier Jaravel. L'actualité qui va nous attendre lundi, c'est Choose France, la vitrine de la politique de l'offre de la France depuis 2017, celle qu'a encore défendue Emmanuel Macron sur TF1 cette semaine. On va commencer avec une question générale sur le bilan de Choose France et de la politique de l'offre. Ça marche ou pas, ça ?
Alors, Choose France, c'est effectivement des investissements annoncés chaque année et des investissements élevés. Cette année, on attend encore 20 milliards d'euros. L'année dernière, c'était une quinzaine. Donc, ça se maintient, et notamment, y compris des investisseurs américains, chinois. Et je dirais que c'est des investissements pour la productivité, surtout plus que pour l'emploi. C'est-à-dire que c'est des choses très capitalistiques. On apprend pas mal de choses sur l'IA cette année. Et donc, c'est quelque chose qui permet à long terme d'irriguer la productivité du pays. Et c'est aussi, comme vous le disiez, un aspect un peu vitrine. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire un service après-vente de plusieurs réformes de politique de l'offre. Donc, allègement des impôts de production, réduction de l'impôt sur les sociétés, beaucoup d'autres réformes des 6-7 dernières années qui ne sont pas forcément toujours lisibles pour des investisseurs étrangers. Donc, l'événement Choose France en tant que tel n'a pas de coût, très peu. Mais en revanche, il a derrière lui toute une politique de l'offre qui a produit plusieurs effets à long terme. Je pense plus généralement, on peut dire que c'est une approche un peu offensive de la mondialisation.
C'est-à-dire alors moi j'avais dit séduction, vous trouvez ça offensif quand même?
C'est dans un contexte général, vous voyez, où on dit on veut attirer des investisseurs, on a une politique qui vise à faciliter les investissements, renforcer la productivité à long terme. C'est très très différent de l'approche protectionniste du gouvernement américain. Je pense que ça marche aussi beaucoup mieux.
Vous pensez que l'opération, la manière plus douce, marche mieux que la manière américaine plus hard?
C'est une manière douce dans la présentation peut-être, mais c'est aussi des grandes réformes derrière qui se déploient sur littéralement une dizaine d'années.
Anne-Sophie Le Chevalier.
Alors peut-être pour faire le bilan de Choose France, quand on regarde depuis 2017, donc 8 éditions, 178 annonces d'investissement, 47 milliards d'euros d'investissement. Alors est-ce qu'ils se sont tous réalisés? Parce que c'est quand même la grande question. Alors on a eu des propos en l'air. Il y a 2 ans, Elon Musk a accueilli à l'époque comme une star, à l'époque où il était encore courtisé, donc le patron de Tesla et le propriétaire de Twitter, rebaptisé X, il avait annoncé des investissements significatifs en France dans un avenir proche. On ne les a pas trop vus. Ensuite, l'Elysée met en avant un taux de transformation excellent et parle d'une dizaine de projets qui ne seraient pas allés à terme. Nos confrères de l'usine Nouvelle ont fait une enquête détaillée. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Donc, ça fait un peu écho à ce que disait Xavier. Ils constatent que la majeure partie des projets concernent les réinvestissements sur des sites existants pour pour les moderniser ou étendre leur capacité de production. Et si on regarde les promesses de nouveaux sites, il y en a eu 39 annonces de nouvelles usines, de nouveaux centres de recherche et développement ou de nouveaux data centers. Et nos confrères trouvent que seulement 15 sont opérationnels aujourd'hui. Et puis, donc ça permet un peu de relativiser le bilan. Et après, quand on regarde, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que l'année dernière, on a un ralentissement des investissements qui est assez marqué, et que la première place de la France dans les investissements européens du baromètre EY montre en fait, c'est qu'on garde la première place, mais les investissements en Europe ont baissé et en fait avec un recul assez net quand même.
Et de l'attractivité. Donc.
De l'attractivité, on a quand même moins 14% par rapport à 2023. Et si on regarde les autres critères, donc en nombre d'emplois générés, ces investissements, la France se place seulement en troisième position européenne. Et si on regarde le ratio d'emplois générés pour chaque projet, là on est seulement 9e. Donc on voit qu'il y a quand même une nette dégradation. Que le rang de première place européenne d'investissement étranger ne montre pas. Mmh. Et puis, peut-être, si on regarde sur le temps long, et finalement, est-ce que ça marche, cette politique-là ? Eh bien, Rexecode, qui est un institut économique, ils ont fait les calculs, et quand on regarde les investissements, les flux sortants d'investissement direct à l'étranger, quand on les compare aux flux entrants, qui sont annoncés notamment lors de Choose France, on a quand même un différentiel de 28%. On a 828 milliards d'euros pour les flux entrants et pour les flux sortants, excusez-moi, et 590 milliards pour les flux entrants. Et donc cette politique d'attractivité, c'est plus un rattrapage et on n'a pas encore rattrapé le niveau d'autres pays européens. On a recréé des emplois, 150 000 emplois industriels, mais on en a perdu 3 millions entre 1975 et 2010.
Donc Xavier Jarvel, vous êtes d'accord ?
Oui, absolument, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a une approche offensive au sens où on tente d'attirer les capitaux étrangers. En même temps, nos entreprises françaises investissent aussi beaucoup à l'étranger. On a une situation qui est... On est dans un environnement fiscal qui est moins attractif que d'autres pays. Et donc, c'est des choses qui évoluent au cours du temps avec plein de facteurs. Je pense que l'événement Choose France, vraiment, en tant que tel, c'est comme vous disiez, c'est essayer de donner de la lisibilité à tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'annonces à ce moment-là qui sont importantes, mais qui, en fait, font partie d'un débat beaucoup plus large sur les investissements directs étrangers.
Mais sur l'attractivité, le baromètre EY, est-ce qu'on perd de l'attractivité ? Est-ce qu'on sait pourquoi on perd de l'attractivité ? Est-ce que c'est...
Mon sentiment, c'est que c'est très volatile, en fait, d'une année à l'autre. Et c'est ce qu'on a vu depuis 2015, en fait. C'est un peu en dents de scie, donc c'est difficile, je trouve, de dire d'une année à l'autre. Il ne faut pas interpréter ça comme un changement structurel. Et je trouve que cette année, en fait, ça se maintient plutôt bien par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer avec les bouleversements géopolitiques.
Avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, voilà. Anne-Sophie ?
Oui et non, parce que quand on regarde le nombre d'emplois industriels perdus l'an dernier, c'est quand même 11 000 dans l'industrie manufacturière. Les chiffres sont quand même, dans EY, ils sont quand même en net recul. Et quand EY interroge les patrons sur pourquoi un peu ils délaissent, vous avez parlé de la fiscalité, ils citent aussi le coût du travail élevé, mais ils citent aussi la dissolution et l'instabilité politique. Donc on voit quand même que l'aspect conjoncturel et le ralentissement général de l'économie a quand même joué un rôle.
Alors, si on regarde maintenant sur le sol américain et qui est le plus attractif avec quelle méthode, il y a Sanofi, c'est la grosse annonce de la semaine, Xavier Jarvel. Mmh. 20 milliards d'investissements sur 5 ans investis aux États-Unis par le labo pharmaceutique français. Est-ce que ça veut dire que la politique musclée de Donald Trump est en train de fonctionner ?
À mon sens, pas du tout. D'ailleurs, il y a d'autres groupes pharmaceutiques comme le Suisse Roche, qui annonce l'inverse. Eux, en l'occurrence, ils reviennent sur 50 milliards d'euros d'investissement qui étaient prévus aux États-Unis parce qu'ils trouvent la politique du président américain erratique, difficile à suivre. Et en fait, Sanofi est dans une situation très spécifique avec un tropisme vers les États-Unis d'assez longue date. Donc, c'est un groupe qui a 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, qui a déjà beaucoup d'employés, 13 000 employés aux États-Unis, mais moins que par rapport à son chiffre d'affaires, et qui veut changer beaucoup de choses, par exemple, se déplacer vers les médicaments biologiques par rapport aux médicaments chimiques. Et il y a un écosystème biotech aux États-Unis qui est très très fort. Il y a un directeur général qui a lui-même un tropisme pour des lieux comme Boston. Et donc qui essaye de ramener toute une partie de l'activité.
Oui, c'est Paul Hudson, je crois que lui-même, il est basé à Boston.
Hein, exactement. Mm-hmm. Et donc pour moi, c'est plutôt, si on voulait trouver un signal, on pourrait dire c'est le signal de la force de l'industrie biotech, mais c'est peut-être surtout juste un tournant américain propre à Sanofi. Et d'ailleurs, on voit bien avec la réaction des marchés, on voit que Donald Trump est plutôt obligé de reculer sur beaucoup de ce qu'il a annoncé.
Anne-Sophie Le Chevalier, vous avez la même lecture ?
Pas tout à fait. La,
C'est un débat.
La décision de Sanofi, donc 20 milliards, il faut quand même dire pourquoi. En fait, ils disent qu'ils veulent augmenter significativement les dépenses de recherche et de développement, ainsi que leur production américaine. Donc pendant ce temps-là, les effectifs, il faut peut-être le rappeler, de recherche et développement en France ont fondu. Alors certes, sans licenciement, dit la direction, mais enfin, c'est quand même 1 million d'emplois de moins en 10 ans, 4 plans sociaux sur l'espace, sur le sol français en 10 ans. Donc la CGT, dans ces 20 milliards annoncés sur 4 ans, fulmine, après dit que la recherche sera presque exclusivement américaine. Dans leur communiqué, ils disent que ce n'est pas un virage, c'est une délocalisation massive de la recherche. À Bercy aussi, dans un premier temps, Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances, a fulminé. Il a dit que c'était un mauvais signal à un moment où nous considérons que nous sommes convaincus que l'Europe et la France c'est l'endroit où il faut investir. Alors, visiblement pas tout à fait d'accord avec le chef de l'État, qui lui a dit hier dans un entretien à la presse régionale que finalement il n'y avait aucun euro nouveau qui n'avait été annoncé et que Sanofi ne faisait que reconfirmer finalement ce qui avait déjà ses investissements annoncés. Néanmoins, il y a quand même Sanofi n'est pas un cas isolé. Ni dans son secteur, parce que vous parlez des autres laboratoires, c'est ce qu'on a vu quand même ces dernières semaines, c'est des dizaines de milliards d'euros promis par les différents laboratoires d'investissements supplémentaires aux États-Unis. Donc se réaliseront-ils ou pas ? C'est trop tôt pour le dire.
Vous nous dites, ça marche, la menace, ça marche, c'est ça que vous êtes en train de dire, Anne-Sophie
Alors, il y a sans doute du recyclage, il y a sans doute des annonces qui avaient déjà été faites, mais en tout cas, beaucoup, enfin de nombreuses entreprises préfèrent échapper aux droits de douane, parce que sur la pharmacie, les produits pharmaceutiques, ils ne sont pas encore effectifs.
On ne sait pas.
Et donc, elles préfèrent annoncer des milliards d'euros d'investissement. Et puis quand même, Sanofi, ce n'est pas un cas isolé en France, quand même, on l'a déjà dit, mais souvenez-vous, l'armateur CMA-CGM qui a annoncé aussi 20 milliards sur 4 ans, Bernard Arnault qui est allé plusieurs fois et encore début mai dans le bureau ovale. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que les appels au patriotisme des chefs d'entreprise qu'avait demandé le président de la République, qu'avait demandé aussi le ministre de l'économie, ils ont quand même fait un peu pchit et que le poids des perspectives financières est important et ceux qui osent s'opposer critiquer ouvertement sont vraiment rare.
Xavier Jaravel, on peut aussi se demander si Donald Trump, quand il dit à Apple, mais moi je veux pas que vous fabriquiez en Chine les iPhones, je veux pas que vous fabriquiez en Inde, je veux que vous fabriquiez aux États-Unis, on peut se demander s'il va réussir ou pas à tordre le bras à Tim Cook. Hein.
Oui, mais on peut aussi se demander s'il n'est pas en train de détruire un peu son économie. On voit qu'il sa note des États-Unis vient d'être dégradée. Les marchés financiers ont réagi très violemment. Trump revient sur sa politique à peu près toutes les 2 semaines.
Ouais.
Et donc, je pense qu'effectivement, il y a des groupes peut-être comme Sanofi qui ont des ambitions de recherche spécifiques, comme je disais, les médicaments biologiques. Et donc, ça peut être naturel pour eux pour d'autres raisons. Après, on peut lier ces annonces-là à un contexte spécifique. Mais je pense que jusqu'ici, ce qu'on voit, c'est plutôt que l'approche Trump ne marche pas.
Et même l'accord avec la Chine ?
C'est revenir. L'accord avec la Chine, on parle de ce qui s'est passé ce week-end,
oui,
c'est-à-dire de baisser
le week-end dernier,
donc de rebaisser un peu les droits de douane.
Tout le monde rebaisse un peu.
Et qui reste à 30%, donc qui reste très très élevé. Mais à nouveau, c'est Donald Trump qui se dédie, il l'a fait plein de fois, d'abord dans des exemptions sur les produits électroniques en provenance de Chine, maintenant en passant des 140% de droits de douane à 30%. Ça reste un problème pour les ménages américains qui ont des prix plus élevés, qui payent de fait ces droits de douane. Et c'est précisément pour ça que Moody's dégrade les États-Unis, parce que ça n'a pas du tout renforcé la soutenabilité de leurs finances publiques. Et en fait, je pense que si on veut voir un signal dans certaines de ces annonces, c'est plutôt peut-être les effets de Biden, de l'IRA, des choses qui essayaient de soutenir l'écosystème américain.
Il faut faire un peu de décryptage. L'IRA, c'était cette loi qui donnait des subventions à tout ce qui était projet vert.
Absolument.
On est d'accord ? Et ça, c'était Biden.
Alors, parce que les annonces là, on ne peut pas les relier à Biden. Ce qu'on peut relier à Biden, et là, en effet, on connaît le bilan, c'est par exemple toujours ce baromètre EY qui dit que les États-Unis sont devenus, ont beaucoup progressé pour attirer les investissements l'an dernier. Et là, clairement, c'est les résultats de la politique de Biden.
Ce qui fait d'ailleurs écho à Biden, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ce qui fait d'ailleurs écho à. Souvenez-vous du rapport Draghi pour l'Europe, qui disait il faut un plan d'investissement massif, c'est comme ça qu'on va attirer les investissements.
Mais c'est une politique de l'offre, Biden. Ce que vous êtes en train de dire quand même, Anne-Sophie, c'est que il y a quand même une partie de la politique de l'offre qui, à vos yeux, marche aussi. Biden, c'est je donne des subventions pour les entreprises, pour les attirer.
Oui, alors après, il y a un autre point, et ça, à mon avis, c'est important de le souligner, et c'est un peu ce que disait Xavier aussi, c'est que aussi on se focalise sur les décisions d'investissement qui, encore une fois, voyons si ça se concrétisera, mais que là, les dernières annonces, on peut quand même les interpréter comme une des décisions des chefs d'entreprise de faire plaisir à Trump et de ne pas se le mettre à dos. Et après, il y a quand même toute la catastrophe économique qui est, avec les dommages collatéraux, évidemment, de la guerre commerciale, ouais. Et on voit bien que même s'il y a une désescalade avec la Chine, c'est pas pour ça que les risques sur l'économie américaine disparaissent.
Et là,
la Fed l'a encore dit cette semaine, c'est qu'il y aura des proportions, ça sera dans des proportions moindres, mais elles seront toujours là.
Et là-dessus, vous êtes d'accord, Xavier Jarabet et Anne-Sophie?
Absolument, et rapport Draghi, effectivement, c'est une autre manière de relancer la compétitivité, c'est un agenda européen et c'est très important et c'est quelque chose à quoi on doit s'employer aussi.
Xavier Jarabet et Anne-Sophie Le Chevalier.
Et déindustrialiseront une
crise.
Maintenant qu'on y a cette économie.
L'écho en version originale. Alors, vous l'avez compris, hein, l'info de la nuit, ce sont les États-Unis dégradés par Moody's qui leur a retiré le triple A. Une première et un coup dur pour Donald Trump, mais ce matin, on n'arrête pas l'écho, a décidé de s'intéresser à la famille Trump et pas seulement au père. Donnez-moi le fils Eric Trump.
My entire life has been building the tallest skyscrapers in the world, the best golf courses, residential buildings, commercial buildings, and that partnership has been absolutely amazing, absolutely amazing. We have come to love the crypto community, and I think the crypto community has really come to love us.
Je traduis. Toute ma vie, j'ai construit les gratte-ciels les plus hauts, les meilleurs parcours de golf. J'ai construit des immeubles, des centres commerciaux et maintenant ce partenariat avec American Bitcoin. C'est absolutely amazing, absolument incroyable. On a appris à aimer la communauté crypto. Je crois que la communauté crypto a vraiment appris à nous aimer. Voici donc Eric Trump, le troisième des cinq enfants du président américain. Eric était ce jeudi au Canada pour la grande conférence du monde des crypto-monnaies. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes correspondant de France Inter aux États-Unis. Alors American Bitcoin, c'est l'entreprise cofondée et dirigée par Eric Trump qui clairement compte sur la politique de son père pour faire prospérer ses affaires.
Oui, absolument. Et Donald Trump ayant promis de faire de l'Amérique la crypto-capitale du monde, sa descendance ne s'est pas fait prier pour prendre le train en route. Il y a donc Eric Trump, le troisième de la fratrie, et son aîné Donald Jr. Tous les deux partagent une passion pour la chasse, ainsi que la présidence de la Trump Organization, mais aussi d'énormes intérêts dans les cryptos, avec deux entreprises lancées depuis septembre, dont American Bitcoin qui entrera en bourse sous peu, ainsi que la création d'une crypto-monnaie opportunément baptisée Trump, précédée du symbole du dollar. Leur père, à coup d'annonces favorables au secteur, fait gonfler la valeur de ses actifs et accueillera bientôt, lors d'un dîner, les 220 plus gros acheteurs de la monnaie qui porte son nom. Mais rassurez-vous, les frères Trump assurent ne pas chercher à capitaliser sur le nom de leur père.
Bon Loïc, on vous a compris, ça reste à prouver. Eric Trump était jeudi à Toronto, mais quelques jours auparavant, il parlait déjà business au Moyen-Orient, et cela juste avant la tournée de son père Donald.
Oui, écoutez, le New York Times parle même d'un blitz, d'une course aux deals juteux partout dans le monde, et notamment donc au Moyen-Orient, un hôtel de luxe de 80 étages à Dubaï, une tour résidentielle à Jeddah, un golf et des villas au Qatar, avec à chaque fois Eric Trump ou son frère dans le costume d'ambassadeur de la Trump Organization, parfois en lien direct avec les gouvernements des pays cités, et le tout en pleine lumière, la presse s'intéressant davantage aux polémiques quotidiennes qui entoure Trump père. Tout cela pose évidemment la question de probables conflits d'intérêts, car Donald Trump, même s'il a cédé les rênes de l'entreprise familiale, tirera lui aussi les bénéfices de cette myriade de contrats. Les Trump ont aboli de façon inédite la frontière entre gouvernement et entreprise privée.
Loïc Loury avec nous de New York. À 9h36 sur France Inter, dans moins de 10 minutes, le directeur général de Valeo, Christophe Périlla, sera à ce micro dans ce studio, interview sur la guerre commerciale, l'avenir de l'industrie automobile, mais aussi le futur de l'objet voiture. Alors vous connaissez les SUV, ce matin on zoome sur un autre acronyme, le SDV pour Software, je vais le redire une fois, Defined Vehicle. Si on traduit, ça veut dire le véhicule défini par logiciel. Ça signifie que la méthode de conception, elle change. Les ingénieurs partent du logiciel et ensuite ils construisent le véhicule autour. Parmi les pionniers, on pense en tout premier aux Américains de Tesla, mais ce ne sont pas les seuls. Et qui gagnera la course? C'est évidemment l'une des questions autour de cette innovation. Allez, on va regarder ensemble de plus près à quoi ressemble ce smartphone à 4 roues, le SDV. Nous sommes avec notre reporter Anaël Verzo dans le 12e arrondissement parisien, chez l'équipementier Forvia.
Bonjour.
Jean-Baptiste sera votre conducteur.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Anaël, enchanté. Je peux monter à l'avant?
Oui, allez-y.
Oui, merci. Comment on fait pour ouvrir la voiture?
Il faut appuyer sur le bouton.
Ah d'accord, il y a un bouton pour ouvrir la portière. D'accord. Voilà, on vient de rentrer dans la voiture. C'est une Ford Mustang électrique qui est commercialisée, sauf que là, elle est équipée d'un SDV. Voilà. Et on va faire un petit tour du quartier.
Exactement.
Autour de Bercy Village.
Et donc là, vous voyez sur le tableau de bord, on a rajouté donc 3 écrans qui vont remplacer en fait nos rétroviseurs. Et sur les côtés, on a les rétroviseurs latéraux qui sont remplacés par des écrans.
Qui sont situés donc à l'intérieur de la voiture.
Et donc là, si j'active la fonction qui nous intéresse, donc nous on appelle ça le stitching, donc qui veut dire le collage, la couture en anglais. Donc là, vous voyez la carrosserie qui est visible en général dans les rétroviseurs. On arrive à la rendre transparente. Et ce qui fait que par exemple, si vous avez un vélo ou une mobylette derrière vous, bah, vous la voyez immédiatement en un coup d'œil.
Donc ça offre plus de visibilité.
C'est ça offre plus de visibilité. Ça retire les angles morts, alors pas à 100%, mais en grande majorité.
Il faut s'habituer. Hein.
Il faut s'habituer, on s'habitue assez vite finalement.
C'est quoi ce petit son?
Ça c'est la voiture qui n'est pas contente parce qu'on a débranché des fonctions.
Ah d'accord.
La fonction que je voulais vous montrer, donc on a installé ici une caméra qui va surveiller l'inattention du conducteur.
C'est une caméra qui est située au niveau du volant.
C'est un équipement qui maintenant est réglementaire sur les véhicules neufs, il est obligatoire. Donc pour surveiller l'inattention et la distraction. Par exemple, si je vais regarder mon téléphone en plein milieu d'une conduite sur l'autoroute, je n'ai pas le droit, je vais avoir un bip de la voiture qui va me rappeler alors. Et en fait, la fonction que nous, on apporte liée au SDV, c'est qu'on va lier cette caméra aux écrans.
Qui sont en fait les rétroviseurs.
Les rétroviseurs, c'est ça. Par exemple, si on est la nuit et qu'on n'a pas envie que les écrans soient allumés tout le temps et me dérangent, quand je regarde la route, je vais diminuer la luminosité des rétroviseurs. Et dès que je les regarde, hop, instantanément, je peux les voir de manière très claire.
L'intensité va évoluer selon votre regard.
Exactement. C'est-à-dire que là, je regarde la route, vous voyez que les écrans sont éteints. Et si je regarde à droite dans votre direction, l'écran se rallume. En fait, c'est la caméra qui va détecter mon regard, la direction dans laquelle je regarde.
Il faut que ce soit très précis, très rapide.
Oui, bah tout à fait. Si on est trop lent, on va louper potentiellement des objets et des dangers. Donc on est de l'ordre de la milliseconde, effectivement, sur le temps de réaction pour la détection du regard.
Et ça, c'est lié au SDV?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est des briques logicielles qu'on peut installer a posteriori pour faire des mises à jour tout au long de la durée de vie du véhicule, ce qui évite aussi une certaine obsolescence programmée. C'est-à-dire que le véhicule va pouvoir évoluer dans le temps et on ne va pas être obligé de racheter un véhicule pour gagner des fonctions.
Bonjour, je m'appelle Gabriel Gautron, je travaille chez Forvia et je suis dans l'équipe qui développe l'Apps Market. C'est un magasin d'applications qui est l'équivalent de l'App Store que vous pouvez avoir dans votre iPhone, qui vous permet d'installer les applications directement dans votre véhicule et qui s'appelle Appning. Donc on a un catalogue de plus de 200 applications qui contient les applications les plus populaires que vous pouvez avoir sur votre mobile, par exemple YouTube, TikTok, Zoom, des applications de navigation et des jeux. Bah, par exemple, je peux vous montrer l'application Radio France.
Elle est là, donc là vous
cliquez. Donc, qui nous permet d'avoir accès au contenu de toutes les chaînes.
En accès au podcast, ouais. Par exemple.
Exactement.
Et vous voulez nous montrer...
Oui, je voulais vous montrer Teams, qu'on a développé chez Forvia, qui vous permet d'optimiser en fait, votre temps de transport, si jamais vous êtes quelqu'un qui prenait des calls dans le véhicule.
Des appels.
Des appels vidéo. Et avec des fonctionnalités de sécurité intégrées, comme par exemple la vidéo qui va se désactiver dès que vous commencez à rouler. Et qui va se réactiver lorsque vous êtes à l'arrêt. Voilà, du coup, vous avez vraiment une expérience très fluide qui vous permet de travailler facilement dans votre véhicule. Les véhicules qui intègrent le concept SDV, effectivement, sont les véhicules qui contiennent les briques technologiques qui nous permettent d'avoir des applications qui vont être peut-être distribuées seulement dans 2 ans, mais qui vont pouvoir atteindre des véhicules qui ont été vendus 2 ans plus tôt.
D'accord, donc ça, c'est vous, chez Forvia, qui proposez ce système-là au constructeur qui le prend ou pas?
Exactement, donc les constructeurs, aujourd'hui on a 32 marques de véhicules qui ont signé avec nous, sur à peu près 90 au niveau mondial, et donc nos clients, ça inclut par exemple BMW, Mercedes-Benz, Mini, Dacia et bien d'autres.
Appning, le marché d'applications de Forvia, se revendique leader mondial devant les plateformes pour véhicules de Google et d'Apple.
Grâce à leur logiciel qui peut régulièrement être mis à jour, les SDV permettent d'obtenir les fonctionnalités dernier cri. Rester à l'avant-garde de la mobilité, voilà la promesse de ces SDV. Mais leur fonctionnement rend aussi ces voitures vulnérables à des cyberattaques. J'en parle avec Patrick Fay, le responsable du service cybersécurité de l'UTAC, une entreprise de test et d'homologation des véhicules.
Il y a un vrai enjeu de fiabilité, il y a ce qu'on appelle de la redondance, c'est-à-dire doubler les circuits, doubler les éléments, comme il peut y avoir aujourd'hui dans les avions qui ont beaucoup moins de mécanique. On sait qu'il y a, par exemple, dans un véhicule qui sort aujourd'hui, plus de lignes de code que sur Facebook. Donc, il y a à peu près 100 millions de lignes de code. Donc, c'est un nombre très important. Donc, il peut y avoir des bugs. Et donc, là, ça permet de corriger ces bugs, ces erreurs. Le cas d'usage, c'est qu'un hacker envoie un logiciel frauduleux à une flotte de véhicules. Donc, tous les véhicules d'un même constructeur ou d'une même marque. D'avoir un ransomware. Tous les utilisateurs d'un type de véhicule reçoivent un message comme ça un matin qui est si vous payez pas, vous pouvez pas démarrer votre véhicule. Ça serait un type de logiciel frauduleux. Aujourd'hui, c'est purement un cas théorique, mais l'ensemble des personnes concernées luttent contre ça, justement. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui peut arriver. Quand vous faites une mise à jour de votre véhicule, potentiellement, vous pouvez rentrer dans un parking, la connexion peut se perdre, etc. Donc, sans parler de frauduleux, qu'est-ce qui se passe quand vous ne mettez pas à jour exactement votre véhicule, comme sur votre téléphone, ou vous ne finissez pas la mise à jour du logiciel? Quels sont les différents cas de figure? Est-ce que vous repartez en arrière, etc.? Sauf que là, ce n'est pas un téléphone, c'est quelque chose qui doit vous servir à vous transporter, qui a un enjeu sécuritaire important. Donc,
Et à ce stade, est-ce que c'est fiable à 100%?
100%, j'ai pas de chiffres très concrets à vous donner. En tout cas, il y a une fiabilité, oui, qui a accru par rapport aux véhicules non SDV.
Quels industriels sauront profiter de la montée en puissance annoncée des véhicules SDV? L'américain Tesla a été pionnier, les Chinois sont eux aussi bien positionnés. Et les Européens peuvent-ils rivaliser? Je me rends dans le quartier de La Défense, me voici devant la Tour Majunga, un grand building vitré. J'ai rendez-vous avec Guillaume Crunel, responsable du secteur automobile au sein du cabinet de conseil Deloitte.
Le SDV, c'est un peu la fin de la voiture finie. C'est une voiture qui sera évolutive, potentiellement à mettre à jour comme votre téléphone, et qui gagnera des fonctionnalités dans le temps. C'est ça la grande révolution attendue par le SDV. Probablement dans les prochaines générations de véhicules, donc dans les 5-6 prochaines années, l'intégralité de ces véhicules sera produite de cette manière-là, partout dans le monde. Le gros obstacle à l'avènement du SDV chez les constructeurs traditionnels, c'est la gestion du patrimoine, la gestion de ce qu'on appelle la legacy industrielle. Quand on passe à un nouveau modèle d'exploitation, un nouveau modèle industriel, il faut gérer la fin de l'ancien. À la différence des nouveaux entrants, les Chinois, les Tesla, qui eux rentrent directement sur ces modes d'organisation-là. Donc nos constructeurs occidentaux ont deux problèmes. Le premier, être performant dans un monde qui construit les voitures d'une manière différente, et gérer la transition d'un modèle centenaire vers le modèle de demain. On est dans un monde d'hyper-compétition qui va continuer pendant les 5-10 prochaines années et qui est une zone relativement critique pour l'ensemble de nos constructeurs.
Et au niveau des prix, est-ce que vous pensez que les personnes seront prêtes à payer un surplus pour avoir ces véhicules-là ?
Ce qu'on sait, c'est que le consommateur automobile, tout du moins en Europe et nos études le montrent, a une vision très peu élastique des prix. On sait qu'à plus de 30 000 euros, vous avez déjà supprimé 40% de la population, et à plus de 50 000 euros, vous avez supprimé 90% de la population. Donc non, les gens ne se réveilleront pas 40% plus riches demain si on leur propose d'acheter un SDV. Donc la vraie problématique va être de produire des véhicules à un coût de revient satisfaisant, tout simplement pour avoir un consommateur au bout de la concession.
La voiture logicielle, le nouveau modèle de l'industrie automobile, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et c'est l'un des acteurs mondiaux de cette course à l'innovation, le directeur général de l'équipementier Valeo. Bonjour et bienvenue Christophe Périlla.
Bonjour, merci.
Alors Valeo, groupe français centenaire. Oui. Plus de 21 milliards de chiffre d'affaires, vous avez des usines dans 40 pays, 12 000 salariés en France. Donc vous, avec le SDV, vous participez à cette course. On comprend dans le reportage que le conducteur va pouvoir s'abonner à des services d'aide à la conduite, de vidéos pour faire des zooms. Mais il y a le défi. D'habitude, auparavant, on achetait une voiture, c'était une fois pour toutes. Et là, les constructeurs vont devoir convaincre le client de payer un petit peu chaque mois. Combien ?
La voiture, elle devient logiciel. Après, vous en faites l'usage que vous voulez. Si vous voulez vous abonner à des apps, vous le faites. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Ce qui est surtout important, c'est que la voiture, elle va être mise à jour. Elle va être mise à jour pendant les 15 ans de vie, avec des apps supplémentaires ou sans apps supplémentaires. Donc la voiture, elle devient logiciel. C'est une des trois grandes tendances qui révolutionnent l'industrie automobile demain. La voiture, elle devient électrique. Elle devient autonome, hein, on est sur le chemin de l'autonomie, et elle devient logicielle. Mmh. Bon, nous, on a fait ce virage depuis longtemps, hein, on a 20 000 ingénieurs dans le groupe, 9 000 sont des ingénieurs logiciels, donc on écrit beaucoup de logiciels, les ordinateurs qui sont, vous avez dit, c'est un smartphone sur roue, donc ce smartphone, cet ordinateur, c'est nous qui le concevons, c'est nous qui le fabriquons dans nos usines.
Et est-ce que
c'est
vous qui allez gagner la course? Parce qu'on a beaucoup insisté dans le reportage là aussi, il y a vraiment de la compétition là, pour cette révolution.
On a des grands clients qui nous ont fait confiance, c'est une partie très importante de nos commandes. Donc oui, on est très très bien placé d'un point de vue technologique.
Les grands clients, c'est qui ?
On a annoncé des partenariats avec Renault, hein, on est derrière le SDV de Renault, on est derrière le SDV de BMW, puis il y a beaucoup d'autres contrats dont on ne peut pas parler, qu'on a eu la chance et l'honneur d'avoir.
Mais vous n'avez quand même pas répondu à ma question, Christophe Périllat. On se demande quand même combien ça va coûter. Non, on se demande combien... Parce qu'il y a quand même... Vous concevez, vous êtes ingénieur, enfin vous êtes des ingénieurs. Mais il y a bien le sujet de... c'est déjà cher une voiture. Combien de gens va réussir à convaincre avec ces services?
Le SDV, c'est une baisse de prix. C'est une baisse de coût. Donc c'est pas ce qu'on a entendu dans le reportage, mais c'est ce que je pense, c'est la réalité. Quand vous remplacez l'architecture d'une voiture aujourd'hui, c'est à peu près 100 calculateurs. Demain, c'est quelques ordinateurs plus gros ou un ordinateur. Donc vous avez moins de composants électroniques, vous avez moins de câblage pour les relier. Donc je rentre un petit peu dans la technologie. Mais donc le SDV, c'est mieux. Et c'est moins cher.
Alors, vous me dites que j'achèterai moins cher, mais peut-être que je vais dépenser 10 euros par mois pour mettre mes apps à jour.
Exactement.
C'est ça? Est-ce que c'est là j'ai une image juste?
Exactement.
Ok. C'est donc une perspective positive pour vous, les équipementiers, dans un paysage qui est plutôt mouvant, avec un horizon qui est encore assez flou. Là, je veux parler de la guerre commerciale. Racontez-nous, si vous voulez bien, comment chez Valeo vous vivez les droits de douane américains au quotidien? Vous avez des usines, je le précise, au Canada et au Mexique.
On a des usines au Canada, au Mexique, aux États-Unis. D'abord, la première chose, c'est qu'on a une stratégie industrielle qui est celle de l'industrie automobile, qui est locale. Voilà, on est local pour local. Ça veut dire qu'on produit en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord, on produit en Europe pour l'Europe. Donc il n'y a pas de produits finis de Valeo qui sont sur des bateaux. Donc ça veut dire que quand on investit aux États-Unis, quand on investit en Amérique du Nord, c'est parce qu'on gagne des marchés en Amérique du Nord. Mmh. Après, un certain nombre de droits de douane...
Vous avez quand même des produits qui traversent les frontières?
Non.
Du Canada, du Mexique?
Les frontières, mais... d'un point de vue continental, oui. On travaille dans des zones géographiques continentales. Donc l'Amérique du Nord, c'est pour nous une zone à partir de laquelle on sert les États-Unis, le Mexique ou le Canada, où sont les usines de nos clients. Bon, nous, on s'exprime en disant qu'on n'est pas pour les droits de douane. Les droits de douane, ça crée de l'instabilité. Les droits de douane, ça crée des mesures de rétorsion. Tous les jours, on les recalcule. Voilà, c'est compliqué.
C'est ça le quotidien? C'est ça le quotidien?
C'est ça le quotidien aujourd'hui. Mais justement, il ne faut pas être trop dans le quotidien. Si vous voulez, pourquoi les droits de douane ne sont pas une bonne réponse? Ils ne sont pas une bonne réponse, mais la question, elle est fondamentale. Je voudrais prendre une période de temps qui est longue. On fait rarement ça. Je prends 25 ans. Les États-Unis ont un problème fondamental. Ils représentaient 24% de l'industrie du monde en 2000. Aujourd'hui, c'est 12%, divisé par deux. Le Japon, c'est divisé par deux. L'Europe s'est divisée par deux. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de la Chine. La Chine, en 2000, c'était 8% de l'industrie mondiale. Aujourd'hui, c'est 35%. La Chine gagne une part de marché mondiale dans l'industrie de 1% par an. Tous les ans, plus 1%, plus 1%, plus 1%. Si vous prolongez le trait dans 15 ans, donc en 2040... La Chine représentera 50% de l'industrie mondiale. C'est effrayant.
Mais alors,
c'est effrayant d'un point de vue social, c'est effrayant du point de vue de la souveraineté. Donc il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qu'il faut traiter.
Mais vous dites, Donald Trump, les droits de douane, c'est pas la souveraineté. Vous ne croyez pas que ça... Vous ne croyez pas concrètement. Il ne va pas réattirer des usines, comme on a parlé de Sanofi tout à l'heure, on pourrait parler d'Apple. Il ne va pas, croyez-vous, réattirer des usines sur le sol américain avec ces droits de douane? Vous n'allez pas augmenter la taille de vos usines ou en créer de nouvelles?
Donc d'abord, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si rien n'est fait, si personne ne prend de décision, dans 15 ans, La Chine, c'est la moitié de l'industrie mondiale.
On va parler de la Chine, mais dites-moi
sur les
États-Unis.
Si on veut ne pas désindustrialiser, si on veut réindustrialiser, il faut faire quelque chose. Est-ce que les droits de douane sont la meilleure solution ? Nous pensons que non. Je pense que non. Parce que ça crée de l'instabilité, parce que ça change tous les jours. Vous l'avez dit, on ne peut pas prendre des décisions d'investissement sur la base d'un droit de douane qui est instable. Donc il faut travailler sur quelque chose qui est un outil qui est plus performant. Et l'outil que je défends, l'outil que j'explique aux politiques, j'étais à la Commission européenne un certain nombre de fois, c'est le contenu régional. Ça veut dire que, je vais prendre l'exemple de l'Europe, voilà. L'Europe est très industrialisée aujourd'hui en termes d'automobile, hein. L'Europe exporte des voitures. Mais il y a un risque de désindustrialisation au profit de la Chine. Donc pour défendre l'industrie automobile européenne, il faut qu'une voiture qui est vendue en Europe, soit assemblée en Europe et un contenu européen minimum.
Dites-nous, ça existe ailleurs.
Ça existe justement en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord vient de le mettre en place. C'est une voiture qui est assemblée en Amérique du Nord, elle doit avoir 75% de contenu régional. Et là, vous embarquez, bien sûr, le constructeur, mais vous comprenez bien que vous embarquez tous les équipementiers.
C'est votre souci,
les
si on met des droits de douane.
Équipementiers, ouais. Vous embarquez l'acier, vous embarquez l'aluminium. L'Inde est en train de le faire et est en train de décider que 80% d'une voiture qui sera vendue en Inde devra être indienne. Toutes les régions du monde sont en train de le faire. Parce que l'industrie automobile, c'est très important en termes d'emploi en Europe. C'est 13 millions d'emplois.
Et là, vous êtes écouté. Alors, c'est votre plaidoyer. Est-ce que vous êtes écouté ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres équipementiers qui vous suivent ? Et vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce que vous croyez que Trump va réattirer des usines avec sa politique ?
C'est ce qu'on entend. Voilà. Alors nous, nos usines, si vous voulez, sont pas sur roulette. Aujourd'hui, elles sont principalement au Mexique, elles sont relativement peu nombreuses aux États-Unis, même si on en a. On va attendre de voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, quels vont être les droits de douane pérennes, stables. Voilà. Donc oui, je pense qu'il attirera un certain nombre d'industriels pour réindustrialiser l'Amérique du Nord, pour que la part de marché que les États-Unis ont perdue en 25 ans, qu'ils la regagnent. Mais c'est un combat que l'Europe doit mener, c'est un combat que le Japon va mener, c'est un combat que toutes les zones géographiques doivent mener pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec une Chine qui représente aujourd'hui un tiers et demain la moitié de l'industrie mondiale. C'est pas tenable.
Est-ce que la proposition des patrons de Stellantis et de Renault, c'était dans le Financial Times encore cette semaine, de faire une réglementation européenne différente pour les petites voitures, c'est une piste intéressante ?
Alors, est-ce que c'est une piste intéressante ? Il y a certainement des choses à faire sur les normes. Mais est-ce qu'on veut revenir à 1972 où il y avait 18 000 morts sur les routes en France ?
C'est de ça qu'il s'agit.
C'est de ça qu'il s'agit en partie. Les normes, c'est pas du gadget. Les normes, c'est pour que la voiture soit moins polluante, c'est pour que la voiture soit plus sûre. Voilà. L'industrie automobile, elle a fait un progrès considérable sur une période longue pour diminuer la mortalité. On est passé 18 000 morts, c'était le pic en 1972 en France. On est à 3 000 morts aujourd'hui parce qu'il y a eu les ceintures de sécurité, il y a eu l'ABS, il y a eu les airbags. Et il y a eu ce que fait Valeo, c'est-à-dire le freinage d'urgence, l'évitement d'obstacles. Toutes ces technologies qui permettent de rendre la voiture plus sûre. Est-ce qu'il faut revenir en arrière ? Je ne crois pas. D'ailleurs, Renault et Stellantis vont se retrouver face à une compétition chinoise avec des voitures qui sont bourrées de technologie. Et Valeo, c'est un champion technologique. Donc je ne vais pas du tout défendre, surtout dans ce studio, je ne vais pas défendre que l'avenir n'est pas la technologie.
L'usine Valeo de la Suze-sur-Sarthe, ça c'est le site que vous êtes en train de fermer. Oui. Vous avez une vingtaine de sites en France. Est-ce qu'il y en a d'autres en danger ?
L'emploi, ce n'est pas une donnée. Hein. L'emploi, c'est la conséquence. C'est la conséquence de est-ce que l'entreprise est suffisamment innovante ? Est-ce qu'elle prend ça part dans les produits de demain. La réponse pour Valeo, c'est oui, on est innovant, vous le savez. C'est la conséquence du marché. Je rappelle que le marché automobile européen, c'est le seul marché mondial qui n'a pas retrouvé ses volumes d'avant. Hein, c'était 21 millions de voitures par an, c'est maintenant 16 millions de voitures. Mmh. Donc le marché mondial, il a baissé de... marché, pardon, européen, il a baissé de 20%. Donc c'est ça, et de la compétitivité.
Donc d'autres sites en danger, c'est ma question, vous dites...
Aujourd'hui, non, mais je peux rien garantir. Nous, on fait pas Choose France demain, on fait Choose France tous les jours. Voilà, ça fait 20 ans, 30 ans, 100 ans qu'on fait Choose France. On a 80% de notre innovation en France. Je vais vous donner un autre chiffre très important. Vous avez la production automobile en France, la production de voitures, en 20 ans, elle a baissé de de 2. Il y avait 3,5 millions de voitures produites en France il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 1,6 million, c'est la moitié. Valeo a gardé ses usines. Valeo a gardé ses usines. Donc, il y a des solutions. Mais il faut être compétitif.
Christophe Périlla, le directeur général de Valeo, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, une question d'Amandine qui est en pleine phase de recherche d'emploi. Elle a utilisé l'intelligence artificielle pour faire son CV, ses lettres de motivation. Mais elle le sait, tout le monde fait pareil. Alors comment sortir du lot? C'est sa question.
C'est vrai, nous sommes de plus en plus nombreux à recourir à ChatGPT ou le chat pour bien rédiger une candidature. Et au fond, pourquoi pas? L'exercice est de toute façon très convenu. On est tous très motivés, très compétents et on pense avoir plein de choses à apporter à l'entreprise. La mise en forme par l'IA est standardisée, mais elle permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, question syntaxe et orthographe. Et là non plus, c'est pas plus mal. Ne croyez pas, Amandine, qu'il y ait des détecteurs de CV générés par l'IA. Vos futurs employeurs n'ont pas le temps de s'amuser à ça. Ils ne suppriment pas illico votre candidature s'ils s'aperçoivent que vous avez utilisé ces outils. Surtout que de plus en plus, c'est l'IA et non pas une personne en chair et en os qui effectue les premiers tris. En fonction de certains mots-clés, un algorithme retient les éléments intéressants de votre profil et c'est ça qui fait la différence. C'est à vous de bien examiner la fiche de poste, de vous renseigner sur l'entreprise et ensuite de personnaliser au maximum votre demande à l'IA avec votre style à vous. Comme on dit aujourd'hui, il faut savoir prompter efficacement la machine.
Mais comment savoir, Sandrine, que c'est bien un humain et non pas un robot qui va vous embaucher? Jusqu'où peut aller l'employeur avec l'IA?
Oui, certaines entreprises ont mis en place des chatbots de recrutement pour converser avec les candidats, mais l'employeur doit les informer qu'il s'agit bien d'une IA. Le point positif, si évidemment l'algorithme a été bien conçu et que ces outils écartent les critères discriminants comme l'âge, le genre, l'origine ou encore l'adresse. L'aspect plus inquiétant concerne la capacité de l'IA à détecter le comportement d'un candidat. Pendant une visioconférence, par exemple, l'IA peut déceler votre aptitude à la créativité ou vérifier si vous êtes à l'aise à l'oral. En revanche, on ne peut pas utiliser ces outils pour identifier les émotions, la personnalité ou les intentions d'un individu à partir de ses gestes, de ses mimiques ou de ses données biométriques. La loi européenne sur l'IA de juillet 2024 l'interdit formellement. Elle a raison de le faire, mais où s'arrête la frontière entre les qualités de communicant d'une personne et son degré de stress qui peut la faire paraître antipathique? Aujourd'hui, les responsables RH se veulent rassurants. L'IA n'est qu'une aide à la décision. À partir de quand finira-t-elle par prendre elle-même la décision? La question, Amandine, vaut pour tous les domaines touchés par l'intelligence artificielle.
Notre intelligence naturelle, Sandrine Foulon, Mavio Boulot.